Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vous êtes sur le point de suivre Jacques Joly, grand prêtre de la gastronomie, qui traîne courageusement ses amis cordon bleu chez Vincent Malone, grand nul en cuisine, afin qu'il partage avec lui les secrets de leur recette dominicale. Alors, crayon, aspirine.
Jacques Joly. Le plat du dimanche. Bonjour Jacques.
Salut Vincent, ça va?
Mais quelle est cette beauté que tu nous amènes? Alors là, t'as fait très fort.
Une italienne?
Ouais.
Qui es-tu, belle inconnue?
Ah bah dis donc, quel accueil.
Ah, hein? C'est comme ça.
Bah t'as vu chez Vincent, c'est le bordel. Hein.
Ah ouais. Laura Portelli. Je
Laura
suis
Portelli.
Cuisinier.
Ah, tu te présentes avec ton nom.
Toujours.
Laura Portelli.
Alors, mais ah bah, on
italienne,
met
hein.
Toute une vie à l'accepter son nom, alors je le revendique.
D'accord, bon, on va tout de suite dans la cuisine. Allez hop. Là, on est dans une cuisine où il n'y a pas grand-chose, il n'y a quasiment rien. Et tu vas m'aider, Laura, à faire quelque chose pour mon plat du dimanche. Et c'est quoi?
Alors, des polpette. En fait, c'est des petites boulettes de viande italienne, très 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 connues, très typiques chez les Italiens, et qui est le plat un peu du dimanche par excellence.
Ah ouais?
Ouais.
C'est-à-dire, c'est le plat du dimanche en Italie, tu vas en Italie le dimanche, tu arrives dans une famille. Ah, c'est toi, Vincent, Vincenzo, je suis content de te voir. Je vais te faire les polpette. C'est ça qu'il dit ça?
Il est magnifique, votre accent.
Ouais, il l'a prévenu, il parle pas
on
italien.
On sent
du
que
tout.
Vraiment, il y a un
si,
travail,
si, si, si,
il s'est vraiment renseigné.
Si.
Alors oui, c'est un plat qu'on fait souvent en fin de semaine. D'une part, parce qu'il regroupe plusieurs ingrédients à base de viande. Et que souvent, en fin de semaine, on a un petit peu de poulet qui reste, un peu de charcuterie, etc. Et puis d'autre part, parce que c'est un plat qui a beaucoup de goût, et puis qui est très gourmand, et qui se partage facilement. Et puis qui est facile à faire, donc rapide.
Parce qu'en Italie, il y a encore les repas de famille et tout.
C'est très important. Il y a beaucoup de repas de famille, et la cuisine est populaire. C'est pas, moi, je dis souvent que c'est pas comme en France, où la cuisine, souvent, elle appartient aux chefs, là, aux écoles de cuisine, etc. En Italie, elle appartient toujours au peuple. Et d'ailleurs, ça se voit dans le fait que souvent, quand on va dans un petit restaurant un peu pourri sur le bord de la route en Italie, on peut tomber sur des plats exceptionnels.
Ah, mais on mange toujours bien en Italie.
Ah, je ne suis absolument pas d'accord avec vous. Alors là.
Moi, j'ai toujours... C'est un des pays mieux qu'en Espagne. Non, mais je veux
ça
dire,
sent
c'est...
combat là.
Non,
combat,
non, mais moi
combat.
Je suis entièrement d'accord avec Laura.
Les yeux qui brillent.
Non, non, en Italie,
et l'estomac
j'ai
qui se
toujours remet, bien mangé. Toujours. Et comme tu dis, sur des petits trucs.
Voilà. Ouais, des boui-boui. Alors qu'en France, quand on s'arrête au bord d'une route dans une petite brasserie.
Ouais, c'est pour
ça, c'est immonde.
Non, mais c'est vrai. On dit que c'est le pays de la gastronomie, mais c'est de la.
Si, la gastronomie pour les riches.
Oui, non, c'est ça. Mais
c'est ça, c'est vrai.
Toi, tu tiens. Quoi d'ailleurs? Tu fais quoi d'ailleurs dans la vie?
Alors moi, j'ai un traiteur. J'ai un traiteur plutôt italien parce que je suis franco-italienne.
Pose ton sac sur la table, tu seras plus à l'aise parce que là, tu trains.
Façon,
on dirait que tu veux repartir tout de suite.
Mais non, pas du tout. Je cherche
Mais
ma si. Recette.
Ah.
Mais alors, j'ai un traiteur qui s'appelle le Garde-Manger, qui est 8 rue Meissonnier dans Paris.
C'est où la rue Meissonnier?
C'est pas loin du métro Wagram, c'est à 50 mètres.
Ah, 17e. C'est dans le quartier chic.
Ah oui, attendez, monsieur. Mais moi, je suis très chic, moi.
Tu tiens quoi, alors?
Je tiens un traiteur épicerie. Alors, avec des produits d'épicerie fines qui sont tous, moi, je suis un peu ayatollah là-dessus. C'est que je veux pas de conservateurs, je veux pas de colorants.
Quand tu dis ayatollah, c'est une espèce d'injure aux musulmans que tu fais, c'est ça?
Pas du tout.
Au djihadiste, en fait.
Ça, je peux plus me permettre ça dans une émission.
Ah, c'est vrai que c'est interdit, hein, c'est excuse-moi.
On peut pas être un ayatollah.
Non, non, non. Alors, je voulais dire que je suis un peu...
Choisis tes mots, parce que maintenant, on est quand même dans un monde compliqué.
C'est vrai, un peu psychorigide. Je suis psychorigide des produits. C'est-à-dire que je veux savoir d'où ils viennent, comment ils sont faits, s'il y a des conservateurs ou pas, des colorants, et j'en veux pas d'ailleurs. Et donc, les produits que je propose à la vente à l'épicerie sont sans tout ça. Ils sont bruts. Donc, ils ont souvent des goûts assez prototypés. Mais le gros de ce que je propose, le gros de mes ventes, c'est des plats que je cuisine tous les jours et qui changent et qui sont des plats pour les gens qui veulent emporter ou manger sur place, mais un peu à l'italienne, c'est-à-dire un peu en mode cool.
Tu as une table ou non où on peut manger?
Ah, c'est des tables, ouais.
Et on peut y aller le soir aussi?
Exactement. En fait, on est ouvert en même temps que le restaurant de 11h à 15h et de 18h à 23h.
D'accord.
Et ce qui est bien, c'est que ça permet aux gens qui n'ont pas le temps de cuisiner, c'est-à-dire maintenant tout le monde, parce que tout le monde bosse, il y a les enfants quand il y en a, de prendre à manger et de prendre quelque chose qui est fait maison.
Bon, alors, donc, on va faire des polpettes. P-O-L-P-E. Oui, d'accord. Pour tous ceux qui s'appellent polpettes, c'est comme... C'est P-O-L-P-E-D-T-E.
Oui, on ne sait pas si c'est pas un surnom.
Tu vois, ah, ça vient d'où d'ailleurs, polpette?
Ouais, polpette, et en fait, non, ça vient de... je sais pas du tout d'où ça vient, en fait. Écoute, ça fait depuis Super. Que je suis naine que j'entends ce nom de ma grand-mère. Et ça vient pas d'un nom de viande, donc je pense que c'est un surnom.
Oui, c'est ce que je dis, ça fait polpette. Tu vois, comme genre Yvette, quoi.
Polpette, ça doit être petite chose, ouais. Donc ça va être petite, oh, petite boule.
Oui, mais ça pourrait être petit poulpe, mais sauf que il n'y a pas de poulpe.
Non.
Non.
Non, non, en plus, je me suis renseignée, j'ai pas du tout vu d'étymologie au mot.
Tout le monde t'appelle Boulet. Tout le monde t'appelle Boulet.
Non, mais par contre, Boulet, je sais qu'il y en appelle Boulet autour de la table.
Oui, c'est vrai.
Voilà.
Voilà. Bon, bah, on va
2-0.
Y aller.
Non, je l'ai eu. Je l'ai eu. J'ai gagné contre Vincent. Écoutez tous. Je sais que c'est une recette qui existe depuis la période antique. Et elle existe même, elle est même présente dans un livre du 15e siècle. D'un grand cuisinier italien, donc tu vois.
D'accord.
Donc, bon, 15e, donc c'est une vieille.
C'est pas l'antiquité, mais.
Non,
oui.
Mais il est dit qu'elle existe vraiment depuis la période de la Rome antique. C'est vraiment une très 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 vieille recette.
Qu'est-ce qu'il y a dans tes polpette?
Alors dans mes polpette, il y a du bœuf. En fait,
du bœuf.
Du bœuf, du porc, mais ça c'est en option. De la mortadelle et du jambon cru. Enfin, moi, j'ai jambon cru parce que c'est du jambon genre...
Saint Daniel.
Voilà.
Que s'appelle le jambon cru, c'est du...
Non, parce que
c'est pas
c'est
du jambon,
jambon
cuit, si tu veux.
C'est du jambon fumé,
ce qu'on appelle en France le jambon de pays.
C'est différent du jambon fumé.
Non.
Ah, fumé, c'est autre chose. Enfin, ils sont pas tous fumés, les jambons.
Mais ils sont quoi, alors, s'ils sont pas fumés?
Il faut que tu peux aussi... Ils sont cuits au sel, ils sont cuits au sel, ils sont séchés.
Séchés dans le séchoir avec du sel.
Bah au sel, le sel il cuit en fait, mais il laisse rose.
Et c'est l'air et tout.
Oh là là.
Donc soit tu les fumes dans
la
cheminée.
Apprendre.
Oui, oui, d'accord, ok, ok, bon, très bien. Okay.
Alors, tu mets du bœuf ou du veau, 100 grammes.
Ça, je peux
tu
pas
mets
faire
du
un veau,
porc,
c'est trop mignon.
Un petit porc, un petit cochon, 100 grammes. Alors, le mieux c'est de mettre un petit peu de lard, un petit peu de matière grasse dans le porc, de mettre de la poitrine par exemple.
Fraîche.
Ouais. Si tu en as de la cuite, tu mets de la cuite, c'est pas grave. Mortadelle, t'en mets 50 grammes.
J'adore ça, la mortadelle.
Et 50 grammes de jambon cru. Et après, t'assaisonnes. Alors, tout ça haché, hein. Tu mets ça au
mixeur. Attends, tu haches...
Grossièrement, le mieux, c'est le plus gros possible. Attends. Après, à la maison, souvent, on a des hachoirs qui hachent fin. C'est pas grave.
Pour faire des polpettés pour 4 personnes.
100 grammes de bœuf, 100 grammes de cochon, 50 grammes de mortadelle, 50 grammes de jambon cru.
Alors, toute cette viande-là, il faut la hacher grossièrement.
On la trouve
vous demandez... Alors, dans n'importe quel supermarché, vous trouvez du bœuf. Le bœuf, ça peut être du steak haché, par exemple. Ou ça peut être un steak que vous hachez vous-même.
Mais toi qui aimes bien, qui est un peu soucieuse des ingrédients, c'est mieux d'aller chez son boucher, non?
Exactement. Moi, je préfère. Mais le problème, c'est que moi, j'ai chez le boucher parce que j'ai le temps, que j'ai un petit peu les sous aussi. Et puis que, surtout, j'ai la viande qui arrive au restaurant. Mais je me dis que les gens qui viennent tous les jours, qui font à manger tous les jours, peut-être qu'ils n'ont pas le temps de faire les courses 40 fois. Mais par contre, je les appelle à prendre de la viande au moins bio quand ils vont au supermarché, parce que ça limite la casse. Et après, une gousse d'ail hachée. Alors, si vous n'avez pas de quoi la hacher, vous prenez le presse-ail, ou sinon un grand couteau, un éminceur, et vous tapez fort à plat sur l'ail.
Un geste un peu violent.
Bam!
Kung Fu Panda.
Deux pincées de piment d'Espelette ou de piment que vous trouvez. C'est jamais fermé, cette recette. C'est ce qui est bien. Elle évolue en fonction des ingrédients qu'on a à la maison.
Mmh.
Alors, deux branches de basilic. Mmh. On prend les feuilles, on les hache. Mmh. Grossièrement. Moi, j'aime bien quand il y a un peu de texture dans les herbes. Deux œufs. 30 grammes de parmesan en poudre. Enfin, et alors, si vous n'avez pas de parmesan, que vous avez un autre fromage italien à pâte dure,
pecorino.
Genre pecorino, provolone et tout ça.
Provolone, c'est un peu doux, non? Mais le pecorino, c'est le plus fort, non?
Bah alors, traditionnellement, c'est le provolone qui est dedans.
Ah oui?
Ouais. Moi, j'adore le pecorino personnellement.
Pecorino au poivre, ça a tombé.
Donc moi, je mettrais plutôt du pecorino dedans, ouais, ou du caciocavallo. C'est un fromage qui est blanc, sec, okay, qui est en forme de bourse. Et qui
ah oui, je vois.
Excusez-moi d'interrompre ce fromage en forme de bourse, mais est-ce qu'il y a un truc italien où tu peux nous conseiller pour aller alors, trouver ça à Paris?
Alors moi, moi personnellement, je vends du fromage dans ma boutique.
Donc on peut aller rue Meissonnier, c'est au combien?
Exactement, au 8.
Alors, vous pouvez aller au 8 rue Meissonnier, mais dans ce cas-là, achetez directement les Paul Pété, parce que vous gagnez un.
T'en fais des Paul Pété?
Ouais. Ah ouais, j'en fais super souvent. Et sinon, il voilà, y a une très très belle
la
épicerie.
La recette est finie, les gars.
Il suffit de prendre un fromage à pâte dure, même du comté, etc.
Ah bon?
Ça passe. Ah ouais, vraiment, c'est une recette qui est ouverte. Et ensuite, à la fin, vous rajoutez 100 grammes de pain dur. Alors, c'est les fins de pain qui restent dans le panier à pain, ouais, habituel.
Comme le pain crétois.
Mais surtout, la veille, vous les réhydratez dans du lait. Parce qu'il faut qu'ils soient très moelleux.
Quand alors, même dit réhydraté, je pense qu'il dit on les trempe dedans, c'est ça que tu veux dire?
Ah pardon, excusez-moi. Oui,
non, quand tu rentres dans ton bain,
hein,
non mais quand tu rentres dans ton bain, tu dis je vais m'hydrater, par exemple.
Ah comme, toujours. Chérie, je vais m'hydrater, tu viens? Non, mais on s'hydrate.
Parce que vous allez à deux dans le bain.
Oh. Pardon, excusez-moi.
Attends, d'accord.
Avec son bébé.
Ah oui,
ah,
bébé.
Oui.
Laura vient d'avoir un bébé.
C'est vrai.
Qui s'appelle comment?
Émile.
Émile, comme Emile, mon dernier.
Toi aussi, il s'appelle Émile?
Oui, mon dernier s'appelle Émile.
C'est des beaux gosses, l'Émile. Ce qui est cool, c'est que dans la recette, on hache tous les ingrédients, on les mélange grossièrement ensemble, dans un saladier.
Ouais. Mmh.
Et on forme des boules avec la main. Mmh. Donc ça, c'est hyper simple, de la taille que vous voulez. Hein. Et vous les roulez dans la farine.
Ouais.
Et vous tapotez légèrement la boule pour qu'il n'y ait pas trop de farine
dessus.
Je ne
peux pas tenir à la fin de cette
on
recette.
Parle de boule.
Tiens, regarde, je suis avec mon fils, là, tu vois juste sa tête.
Oh.
T'as vu la bombasse?
Ah, ils se ressemblent d'ailleurs, les papas et le fils,
ouais,
toi. Attends, je vais te montrer ma bombasse, notre bombasse.
Moi, je vais vous montrer des photos de ma caravane.
Tiens, regarde. Attends, moi, je montre une photo de mon bébé tout nu. C'est interdit, normalement. Ça.
Non, c'est bon.
Alors, bon, donc on était dans les polpettes.
Tu mélanges tous les ingrédients.
Tous ces ingrédients que vous avez notés, mais qu'on vous mettra... on essaiera de vous regarder ça précisément.
Oui, parce que là, si vous avez suivi, vous êtes vraiment très courageux.
Attends, on a arrêté la recette 4 fois. Vincent.
Oui, mais après je fais du montage, tu sais, c'est vachement, tout ça est très bien.
D'habitude, on va faire les courses, tout ça, mais comme on a beaucoup discuté avec Laura, on va pas faire les courses, on va considérer que tout est dans la cuisine, sinon on va perdre un temps de cinglé.
Sympa, c'est qu'on donc on mélange tous les ingrédients grossièrement à la main. Une fois qu'ils ont été hachés, on forme les boulettes, on les roule. Ah. Bon, j'arrête.
Non.
Et on tapote légèrement la boulette et l'excédent de farine tombe. Et là, alors, moi j'avais mis une petite garniture. Si
mais
vous
attends,
voulez.
Les boulettes là, donc tu les fais frire?
T'en as qui les font frire. Moi j'évite parce que c'est quand même. T'as mis déjà de la viande, du parmesan,
ouais,
du pain,
gras.
C'est un peu gras. Donc je les cuis au four et au four ça marche super
au
bien. Au four, tu les mets sur une plaque avec papier sulfé, un petit filet d'huile d'olive.
Ouais.
À 210 degrés, 220, ouais, donc, faut que ça tabasse un peu.
Thermostat
7.
Bravo.
Alors ça, je sais pas. Parce
ouais,
que...
c'est 30 degrés en moyenne.
Dis-moi la quantité de pain, parce que tu dis on fait
il
des boulettes avec. Dis-moi qu'est-ce qu'on met dans chaque boulette.
100 grammes de pain.
Non, on mélange tout en fait.
Ouais, tu
mélanges
ça.
Tout.
C'est 100 grammes
tout,
de pain, ouais. D'accord.
En fait,
okay.
Il faut beaucoup de pain.
On fait une patouille quoi.
Le pain, il va permettre à la polpette d'être légère.
D'accord.
Si on met pas beaucoup de pain,
c'est comme le boudin blanc.
Ça risque d'être vraiment très très lourd.
Est-ce que tu fais pareil quand tu fais de la farce pour des tomates, des
ouais,
choses comme ça,
exactement.
Tu mets du pain aussi?
Et même dans la farce
oh,
de la volaille au foie gras, faut toujours mettre
ouais,
du pain réhydraté.
C'est ça que ça allège, le boudin blanc par exemple.
Yes,
voilà.
Hyper
fait,
important.
Je trouve ça toujours, autrement ça fait un espèce de
truc. Ah, ça
fait,
ouais, truc.
Ça fait,
fait.
C'est bon aussi,
c'est
mais
pain
c'est
qu'on met dedans.
Du pain réhydraté.
Trempé au lait.
Du pain qu'on met dedans.
Alors, j'ai pas dit, mais surtout le pain, faut bien l'essorer avec les mains quand vous le mettez dans la farce.
Parce que sinon ça va rendre la flotte.
Sinon, ouais, ça vous met du lait partout dans la farce. Après, il est trop liquide.
L'essorer, ça veut dire le serrer pour
fort avec les mains.
Flotte, quoi.
Exactement.
Fort
si mains, vous oubliez par hasard, rajoutez un peu de farine dans la farce, c'est pas grave. Voilà, ça va
recoller un peu. Ça va coller
voilà.
Un peu.
Ah, mais c'est pas conseillé.
T'as peur que ça soit un peu liquide.
Oui, ça va faire une purée.
Bah, le liquide du lait, parce que ça.
Moi, je mets le pain la veille dans le lait pour qu'il soit bien mou. Après, il est gorgé de lait, quoi. Vraiment, donc ça vous rajoute.
Oui, quand tu le sers, en fait, t'as une espèce de patouille dans la main.
Et c'est ça ce que je veux.
Ouais, j'ai compris, d'accord.
T'as compris?
Oui, elle
t'as
veut
compris
ça.
Calme-toi.
Je crois qu'elle veut ça. Oui.
Alors les œufs, c'est pareil, on les mélange entiers, on se prend pas la tête. Ouais. C'est vraiment une recette familiale. Si vous n'avez pas un des ingrédients et qu'il vous reste, par exemple, une fin de jambon cuit, une fin de charcut à la maison qu'on a acheté il y a quelques jours, passez-les dedans. Si vous voyez que vous avez plus de veau que de porc, etc., passez-le.
Donc, grosso modo, on fait des boulettes et on les met au four pendant 25 minutes, tu m'as dit, d'accord? Sur thermostat 7, sur un papier cuisson, quoi, sulfure, comme vous voulez. Mmh. Et après, c'est fait.
Ouais, alors le mieux, c'est de mettre ça avec une petite sauce tomate.
Oui, non, mais attends, j'avais une vraie question, moi.
Je suis désolée.
Non, mais c'est, j'avais une vraie question.
C'est important.
Qu'est-ce qui fait vraiment la particularité du goût de la polpette?
Alors, la polpette est normalement...
Qu'est-ce qu'il faut pas rater dedans, quoi? Pour que ça soit de la polpettée et pas de la boulette
texture,
de viande. Quoi.
La texture, faut vraiment pas la rater. Et ensuite, il faut lui donner une identité dans les épices. Moi, par exemple, j'ai mis du piment d'Espelette pour que tout le monde puisse mettre une épice. Moi, je conseille aux gens de mettre l'épice qu'ils ont envie de mettre. Par exemple, ça peut être du curry. Un curry qu'on a à la maison, dont on est assez fier, qui a un très bon goût. Ou des épices à paella. Ou faut lui donner une identité, en fait, assez sûre, assez marquée à la boulette. Pour que ça soit vraiment un plat particulier.
Mais il n'y a pas d'épices italiennes particulière en fait.
Si dans le sud de l'Italie, t'as à peu près les mêmes épices que dans le nord de l'Afrique en fait. Hein.
Des piments.
Tu peux avoir du piment, tu peux avoir aussi du curry, tu peux trouver des épices comme ça. Après, tu peux orienter ta boulette, lui donner une identité. C'est ce que je conseille pour chaque plat d'ailleurs. C'est de donner à chaque fois une direction dans le plat. Comme ça, c'est ce qui va faire que les gens, quand ils viennent chez vous, ils vont faire « Ah, ce truc-là, il y a un truc en plus dans la recette. »
L'histoire
Donc, par
de
exemple,
la recette.
Moi, j'aime bien mettre un mélange d'herbes dans les polpettes et de mettre un peu de persil, de basilic, même des fois de menthe dedans, et de bien lâcher ça grossièrement pour qu'il y ait vraiment une bonne mâche quand on tombe dessus.
Elles sont grosses comment, les boules que tu fabriques? C'est quoi? C'est genre une balle de ping-pong ou c'est genre...
Ouais,
ou c'est plus.
C'est gros comme ça. Je sais pas comment tu peux le décrire. Je lui montre du doigt.
Mais on dirait un pouce avec un majeur, avec un index.
Il est pas très sympa. Il fait semblant de pas comprendre. Alors
non,
c'est une
demi balle de tennis.
Moi, j'ai l'impression quand j'écoute ta recette
que ça peut être de la farce de viande lambda.
Ça peut être une kefta.
Que tu me dis me dis grosso modo, mets de la viande, mets des herbes, mets alors un peu de fromage dedans.
Il y a le fromage italien, le basilic, tout ça, ça donne.
Ah oui, mais elle me dit qu'on peut mettre du comté. Alors si on met finalement un reste de jambon, du comté, de la coriandre, etc., c'est toujours de la polpettée.
Si tu veux, non, ça sera moins de la polpettée. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'une recette, ça vit en fonction du frigo qu'on a. Si tu veux, moi, je te donne une recette, ma recette type. C'est sûr qu'il y a pas de comté dedans. Il y a du basilic, il y a
des
herbes.
Redonne-moi ta recette type.
Alors ma recette type, c'est du bœuf, du porc, de la mortadelle, du jambon cru italien.
Non, tu m'avais dit que tu préférais autre chose que de la mortadelle.
Non, je t'avais dit que non.
Ah non, mortadelle, oui, c'est le fromage, oui, mortadelle, oui, d'accord.
Le mortadelle, c'est de la charcuterie italienne.
Oui, d'accord, oui, c'est le truc qui est un peu.
Une gousse d'ail hachée, deux pincées de piment, du basilic haché. Alors moi, je vous disais tout à l'heure que je conseille même de mettre d'autres herbes, genre de la menthe. Du persil haché, 2 œufs et 30 grammes de parmesan ou de pecorino ou de fromage italien. Mais à pâte dure, hein, surtout. Et après, ce que je veux dire par là, en conseillant d'autres choses, c'est que souvent à la maison, quand on fait une recette, il manque un truc. Et du pain trempé dans du lait la veille.
C'est un plat du dimanche populaire. Et donc, comme il est populaire, il est fait aussi avec ce qu'il y a dans le frigo. Ce qu'on trouve facilement dans le frigo.
D'accord. C'est donc, là, vous avez la polpette rigoureuse, la polpette d'Ayatollah Laura. Et vous pouvez changer l'un des ingrédients ou l'autre, le tout étant quand même essayer que ça soit quand même marqué avec un goût, que ça raconte une histoire en quelque sorte.
Exactement.
Un peu comme dans les Top Chefs.
Quelle histoire il me raconte avec
quelle histoire.
On dirait de la tomate. Mais c'est de la tomate.
Mais c'est de la tomate. Mais non, c'est de la betterave.
C'est une tomate qui me raconte. Ah non, là je sens vraiment le perche.
C'est pas grave, depuis que j'ai mis mon colorant vert dans la tomate.
Donc c'est formidable. Et polpette, et ça cuit en 25 minutes au truc. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut se faire en se levant, même après la grasse mat, on démarre ça à 11h du mat, si on a mis un peu son pain à tremper la veille, et encore que, sinon ça passera si on met le matin tôt.
Ouais, c'est ça. Mais faut mieux un peu à l'avance, parce que vous verrez, ce qui est sympa, c'est de passer la fin de pain et de pas jeter comme ça ce pain.
C'est une vraie cuisine de reste, quoi.
Exactement.
Oui. On sort ces trucs-là du four, où ça sent très bon tout ça, on met ça sur un plat de polpette, donc faut le manger relativement vite, puis ça doit refroidir assez vite, ces machins-là.
Ça se mange tiède, hein, c'est pas
un truc... Ça se mange tiède, d'accord.
Et qu'est-ce qu'on sert avec, alors? Qu'est-ce qu'on met?
Le mieux, c'est de faire une petite concassée de tomates. Alors, comme là, c'est plus du tout la saison des tomates.
Ouais, c'est plus la saison, là.
Bon, après, maintenant, on trouve vachement facilement des concassées de tomates d'été.
Ouais.
Déjà prêtes, hein.
Mais toi, tu fais des conserves de tomates ou...
Moi, je fais des conserves et puis j'ai des tomates qui viennent de Sicile, bio.
Non, mais il en fallait qu'elles voyagent jusqu'ici, quand même, tes tomates de Sicile.
Je suis d'accord, mais le problème des légumes d'été, c'est qu'ils ont meilleur goût là où il y a du soleil. Hein.
Oui.
Donc, faut mieux les prendre là où ils sont élevés, dans le sud de la France, ou voilà.
Je
Ne critique pas.
Non, je rebondis, c'est juste ton appellation bio.
Donc là, on est moins sur les tomates, on est plus sur les courges, les petits ronds, les petits marrons et tout ça.
Est-ce que tu fais des conserves de tomates ou non dans ton épicerie traiteur?
Moi, je les fais pas, mais j'en reçois.
Et pourquoi t'en fais pas? Parce que c'est super bon.
Je triche un peu, j'ai une entreprise qui s'appelle Menou et qui m'envoie des tomates semi-confites d'Italie et qui sont
C'est très très bon les tomates confites.
À tomber
confites.
Quoi.
Ouais, c'est pas bon. Ce que je préfère, moi.
Non, mais c'est très bon. Un peu acide, mais c'est très bon. Alors, on fait un concassé de tomates.
Alors ça peut être sympa pour faire une petite sauce. Et sinon, comme il y a des légumes bulbeux en ce moment, vu que c'est l'hiver,
c'est l'automne. Le début.
Bulbeux, c'est quoi?
Bulbeux, c'est sous la terre.
Le panais, le persil tubéreux, les betteraves, les carottes.
Il y en a depuis longtemps,
Ça pousse jusqu'en automne, et après, ça se garde l'hiver, en fait.
Dans le sable.
Exactement. Et alors moi, ce que je conseille, c'est de faire des courges. Alors tu prends un petit butternut, tu le coupes en tranches de 2-3 cm d'épaisseur. Quand tu arrives au moment où tu as les pépins,
Faut l'éplucher le butternut, bien. Je dis comment.
Alors, tu sais pas quoi. Quand tu le cuis sans l'éplucher, ça passe, ça cuit. Tu peux vraiment... Bah ouais, au verre volé, moi je faisais avec la peau et c'était... Tu sentais pas du tout la peau.
Non mais tu la sens pas, mais...
C'est pas très digeste.
Non,
au début je l'ai fait avec la peau. Comme tu dis,
et c'est passé pas.
Tranche très épaisse, coupée en morceaux.
Transit compliqué.
Sur l'huile d'olive avec un papier sulfurisé, juste comme ça au four.
C'est ça.
Et c'est super bon, mais c'est mieux quand t'enlèves la peau.
Alors écoute, c'est plus digeste. T'enlèves la peau.
Non, mais je sais pas, justement, mais je fais un appel à témoins, je ne sais pas. Comme on m'a dit avec sans peau, moi j'ai tendance à mettre la peau.
Moi aussi.
Mais
du butternut, moi
parce que je trouve ça super bon.
Ah, je peux te dire que
je suis incompétent sur le sujet.
Ça, tu dis qu'on la sent pas, mais au contraire, je trouve que ça fait une espèce de fin au morceau qui est super agréable.
Ouais, très agréable.
Ah, on est d'accord.
C'est vrai.
Parfait, j'ai le même goût.
Alors attends, donc c'est fou, il y a des connivences, il y a une osmose.
Je vais vous laisser parce que là vraiment les parcomètes.
Le parcomètes. T'as pas de voiture, tu viens ici en vélo.
Écoute, il est en 1950.
Ah, c'est ça, tu sais.
T'as une carte de stationnement ou pas?
Il y a pas de parking, il y a pas de parking.
Le disque bleu, j'en ai un.
Tu cuis tes courges en tranches sur donc toujours papier sulfurisé. Comme ça, vous vous embêtez pas
à découper.
On
la coupe en tranches.
De 2-3 cm d'épaisseur. Faut que ça soit quand même pas mal épais.
Ah, d'accord, c'est 1 cm en fait avec ses doigts.
Non.
Ah, ça, c'est 1 cm ça.
Attends, ça, c'est pas 1 cm.
1 cm et demi.
Oh les gars,
2-3 c'est ça. Hein. Non, ça, c'est ton mec qui t'a raconté des conneries.
Ah non, on est les grosses têtes là.
Ah, oui, bah ouais, oui. Ah,
ça, c'est une question rouge.
on va dire 1,5 cm. Donc alors tu les coupes bien épais parce que quand même plus c'est fin, plus ça a tendance à se déshydrater quand tu les cuis au four. Après c'est pas très bon. Et alors tu mets un petit filet d'huile d'olive dessus, tu sales, tu t'assaisonnes, sale poivre. Moi je mets ou du romarin ou du thym,
L'ail tapé c'est quoi par rapport à...
Tu donnes un coup dessus en fait et ça l'écrase et ça fait qu'en fait il lâche bien son goût.
Les huiles essentielles d'ail qui partent.
Tu donnes un coup dessus en fait avec ta
paume. Quand tu mets une aille entière, en fait, ça.
Donc tu prends ton aille entière, tu lui retires quand même le germe ou pas? Même pas. Ça dépend, oui.
Ça dépend si vous avez le temps. Le mieux, c'est de retirer la germe parce que elle donne un goût, etc.
Et tu tapes comme ça sur une planche. Après, tu le poses
sur ma plaque. Et puis, si vous avez le temps, vous épluchez votre ail, vous enlevez la germe.
Non, mais attends, mais tu le poses sur ta plaque ou par rapport au butternut? Tu le poses pas sur les butternuts? Oui, tu le poses dessus, d'accord.
Okay. Donc ça, sale poivre, machin. Et quand je sors du four, je mets dans un. Alors, si vous êtes pressé, vous mettez les polpettes sur la courge.
Ouais.
Vous mettez tout au four en même temps.
Et ça cuit pareil 20 minutes. Bah oui,
à 210.
Ouais, c'est pas mal. Moi j'aime bien quand tout cuit les trucs. Je fais des volailles comme ça cuites à plat sur les légumes bon.
Vous m'en direz tant. Et alors tu mets tout dans un plat direct.
Ouais,
joli. Tu
fais un plat comme ça.
Voilà, donc pas de plaque au four, on change, on met dans un joli plat, tu mets les courges, les boulettes dessus et quand tu sors du four, tu essayes de mettre un tout petit coup de vinaigre pour repulser un peu tes
vinaigre
butternuts.
De quoi?
Alors moi j'aime bien le vieux Xérès. Si t'as un très bon balsamique, faut y aller.
Ça sucre un
mais
peu.
Mais ça c'est rare. Oui, mais alors le très bon balsamique, c'est tellement exceptionnel.
Tu dis balsamique?
Balsamique. C'est peut-être marrant, parce que je zozote.
Balsamique. Balsamique.
Non,
balsamique.
Oui.
balsamique.
J'ai fait 10 ans de psychothérapie à cause de ce cheveu sur la langue.
Pas de problème.
Voilà, j'ai recommencé ce soir.
Tu mets jamais du vinaigre de cidre?
Alors le vinaigre de cidre, il donne une identité vachement. Alors il est très acide. Il donne tout de suite un goût très prononcé, en fait, très typé.
Bah, le balsamique aussi. Hein.
Oui, mais alors, je suis d'accord, mais il y a une espèce de rondeur dans le balsamique. Y compris dans le vieux Xérès, il y a une acidité qui est contrôlée par un espèce de goût assez rond.
Oui, un parfum, tout ça.
D'accord.
Ouais.
Donc
j'aime bien ce côté-là, en fait.
Tu mettrais plutôt un vieux Xérès dessus.
Ah ouais.
D'accord,
ouais.
Bah, très bien, on note. C'est parfait. Je sens donc déjà tu as ton plat qui sort du four, qui est très beau, avec des courges en dessous, avec l'ail voilà. écrasé, tout ça. Ça, c'est vraiment été vraiment simple à faire. Même moi, j'arrive à faire cette cuisine de courges et les petites boulettes par-dessus. Et puis, on sert ça. Et puis, ça fait un plat bah, plutôt sympa à voir. Quoi.
Ouais, il y a pas...
ouais. hein et en général, il y a une règle d'or, c'est que plus le légume est gros, plus il est gorgé d'eau. Donc, il faut mieux prendre des plus petits légumes.
D'accord. Voilà.
Non, mais je t'écoute, c'est beau si ouais, tu regardes.
Là, mais... tu te tais d'un coup et ouais, c'est, je suis étonnée parce que comme il se tait jamais.
D'accord. Et qu'est-ce que tu nous conseillerais bah, de boire, toi, avec ça?
Moi, je.
À part l'eau, je veux dire.
Je pense que Jacques peut m'aider. Je pense je ferais plutôt une côte du Rhône, un vin assez joyeux, ouvert, léger.
Ouais, sur une côte rôtie
Non, je sais pas. Moi, j'étais sur du blanc en t'écoutant. En
fait. Ah non, non mais arrête, tu veux toujours nous casser ton
blanc.
Ah,
moi, j'aime bien les rouges, c'est pour ça.
Non, mais c'est parce que.
Non, pas de blanc.
Moi, bon. J'aurais bien vu un...
Non, parce que je pensais à un blanc solaire, un truc un
non,
peu...
Non,
comme
non,
ça. Un grenache blanc, ouais, ou un petit... Comme...
Ou bon, un mosaque
voilà,
de nature.
Voilà, un truc comme ça, chez Plageol, ou un truc comme ça.
Sinon, chez Plageol, t'as la terroiriste. Ouais. Alors, c'est pas très...
Ouais, ou un petit rouge de chez Plageol, qui est bien.
C'est léger, ouais, ensoleillé.
Moi, j'ai été chez j'ai rien à voir, j'étais dans le muscadet. Moi, j'étais chez Jo Landron, qui est un des grands muscadets bio, un mec génial.
T'en as rapporté, espèce de fumier?
Non, c'est parce que pour moi, je bois le vin.
Sérieux,
là, à Muscadet. Après, tu le ramènes à Paris. Tu sais, c'est le syndrome du moniteur de ski. C'est-à-dire, tu te dis.
Ah, non, le moniteur de ski ou.
Non, mais.
Ou le plagiste.
Oui, non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est que du
coup. Attendez, quel est le syndrome?
Ah, t'as jamais été red dingue d'un moniteur de ski au ski
non.
et tu le ramènes à Paris.
Et d'un seul coup, il ressemble à rien. Non, mais d'un seul coup, c'est bien.
Ou le syndrome boîte de nuit.
Si tu veux.
La fille, elle a fantastique dans le noir. Et puis le matin.
Non, là, c'est pire.
Non, mais là, en général, t'es bourré, donc c'est compréhensible.
Mais là, c'est local.
Le moniteur de ski, tu le vois dans son contexte, il est beau, il brille, il est au soleil, il a sa vie, etc.
C'est vrai.
Tu le ramènes à Paris, il sort du métro, il se dit « Ah, Laura !» Là, t'es là.
Oh excuse-moi, quand j'ai...
Comment dire, c'est pas moi. Hein.
On a eu donc Laura Portelli, qui est venue nous expliquer comment on fait les polpette, qui sont des petites boulettes, qui est très très bonne à manger, un peu plus grosse que des balles de ping-pong.
Comment voilà. ça m'a donné faim.
Et très bonne, qui sont bonnes,
c'est
doré.
Magique, hein.
Ouais, c'est vrai.
C'est le genre de plat qui peut vrai. Sortir les gosses du lit le matin. Hein, ça peut sortir les gosses du lit, ça.
Attends, juste avant de conclure, c'est quand même un plat de ma grand-mère. C'est un peu naze de dire ça parce que tout le monde dit ça en cuisine. C'est... Mais ma grand-mère qui s'appelle Mila Tolorenzi, elle cuisine comme une malade. C'est vraiment pour moi, bon voilà. Et c'est elle qui faisait ça à la maison. Et elle avait l'art. Avec un micro-budget, parce que c'est pas une femme qui roulait sous l'or, je fais plein de mélanges.
Non, mais c'est juste, oui, c'est parce que je t'impressionne.
Et alors?
Je comprends.
Bien sûr. Ouais, c'est vrai, là, ce truc-là, avec les gens. Hein.
Non.
Et, elle faisait des plats de ouf. Et souvent, d'ailleurs, avec la farine qui restait, et quand il restait de l'œuf, quand elle faisait de la panure, elle faisait des petits blinis. Enfin, elle faisait toujours des trucs, si tu veux. T'avais jamais
de reste, quoi.
De gâchis, de reste.
C'est bien.
Et ce que j'adore avec ces femmes-là, c'est que pendant qu'elles préparent ce plat du dimanche, il y a toujours un gosse ou deux qui traînent à côté. Et elles arrivent à leur fabriquer un petit truc qu'elles leur mettent au four en même temps.
Ouais,
et ils sortent un espèce de petite tartelette, un bordel qu'elles t'ont fait en sous-main, en tripotant d'une main
gauche. C'est ça qui donne souvent envie de faire la cuisine. Quoi.
Demain, et hop, elles te sortent un truc et les gosses sont complètement émerveillés.
Et elles te font un cadeau. Elles font des cadeaux. Ouais.
C'est formidable. Et ben, merci à grand-mère Mila.
Merci à tous les deux.
Maman Mila.
Ah ouais, elle est top.
Maman Mila.
La nonne.
Bon, je vous laisse continuer de discuter.
Non, pas du tout, on cesse. Je vous raccompagne pas, la porte est là. La porte...
Ah, nous fout dehors.
La porte est là.
Je vais te dire un truc. S'il y a un truc qui va pas dans cette émission, c'est l'accueil. Je veux dire...
Mais non, Vincent.
Non, Vincent, quand même.
Non, Vincent, il est très sympa. Bon, allez, je vous embrasse, je vous laisse.
Le plat du dimanche.
C'est quelle adresse,
tu
m'as dit ?
Alors, c'est 8 rue Meissonnier.
8 rue Meissonnier.
Ah, il est nouveau, ah, génial.
09 67
12
81 88. Laura t'attend.
Oui.
Salut.
C'était une émission du Poste Général.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.